D'abord, je voudrais dire que tout ce que M. Maresca vient de dire, je le partage dans une large mesure, car je crois que c'est vrai. Maintenant, la question posée, qui a inventé, qui était à l'origine de la troisième corbeille, est selon moi une question un peu académique. C'est inutile de se disputer si c'est les États-Unis, si c'est la communauté européenne, si c'est d'autres pays encore qui l'ont fait. Ce n'est en tout cas pas la Grèce, ni le Portugal, ni l'Espagne, ça nous le savons. Mais tous les autres pays, même en Suisse où nous n'avons pas encore publié tous les documents de l'époque, nous avions aussi des idées dans le domaine de la troisième corbeille, dans le domaine de la liberté de la presse, etc. Donc je crois que c'est une dispute un peu inutile. En tout cas, la troisième corbeille est née, c'était une génération spontanée, et je crois qu'il faut faire une différence entre les préparatifs de la conférence The Road to Helsinki et ce qui s'est vraiment passé là-bas, car la conférence a pris une vie qui était la sienne et qui n'était pas toujours celle prévue par tous ceux qui l'avaient préparée. Elle a eu une vie propre. Le second point que je voulais faire, c'est une question qu'on a un peu oubliée, que M. Masny a posée. Est-ce que nous avons détecté des divergences à l'intérieur des pays du pacte de Varsovie, etc. Je crois que dans un des documents américains ou de la communauté, on disait que cette conférence allait donner la possibilité à des pays du pacte de Varsovie de s'exprimer plus librement, de sortir un peu de la discipline du pacte de Varsovie. Eh bien, je dois dire qu'en ce qui me concerne, ça n'a pas du tout été le cas, à l'exception de la Roumanie. Tous les autres pays sont restés très disciplinés. Ce qui en revanche est arrivé, et peut-être c'est une révélation pour certains d'entre vous, c'est qu'à l'intérieur de la délégation soviétique, nous avons constaté des divergences qui n'étaient pas capitales, mais qui étaient des nuances importantes. Et souvent, nous avons entendu d'un côté de la délégation nous dire, vous savez, si vous insistez un peu plus dans un autre domaine, vous pourrez obtenir un peu plus, car les instructions sont qu'ils peuvent donner un peu plus, et vice-versa. Ça, nous l'avons entendu, et ce n'était pas quelque chose que l'on exploitait immédiatement, mais c'était quelque chose dont il fallait tenir compte. Mais cela ne s'est pas du tout produit entre les pays du pacte de Varsovie vis-à-vis de l'Union soviétique ou autrement. Il n'y a pas eu de discipline qui était entamée. Maintenant, ce que nous devons aussi comprendre, c'est que à cette époque-là, le grand mot à la mode, c'était le mot de détente. Mais la détente telle qu'elle était définie, et par l'Union soviétique, et par les États-Unis d'Amérique, était surtout une détente qui se fixait des objectifs dans le domaine militaire, dans le désarmement. Et la détente, c'était moins d'armes, réduction des effectifs, etc. Et ce que la CSCE a introduit, c'est que la détente s'est également emparée de problèmes qui concernaient les individus à proprement parler, c'est-à-dire dans leur vie quotidienne. Et ce que M. Maresca a dit est juste, cela affectait la vie de certains individus, surtout dans les pays de l'Europe de l'Est, qui pouvaient peut-être vivre différemment, voyager plus librement, etc. L'exemple qu'a donné M. Maresca, je peux vous en donner un autre. Dans les années, au début de la conférence de Madrid, le représentant des États-Unis d'Amérique était M. Campbellman. M. Campbellman a reçu un jour, voulait venir parler en Suisse devant la commission d'Helsinki, nous en avions également une. Et alors je l'ai accompagné, nous sommes allés à Zurich et là il a parlé devant une salle de 100 ou 150 ou 200 personnes. Et il a dit une chose, il a dit, voyez-vous, mon prédécesseur à la tête de la délégation américaine à Belgrade, Monsieur Goldberg, a cité à Belgrade 16 noms de dissidents, de réfusniks, dont on demandait le départ ou la réunification de famille en Occident. Moi, à Madrid, j'en ai cité 144. Voilà l'évolution. La conférence est terminée, Et un monsieur s'avance à la tribune et il dit, je m'appelle tel et tel, je suis un des 14 dont le nom a été cité par M. Goldberg à Belfast. Voilà, c'était une preuve que quelque chose s'était passé, ça nous a tous beaucoup impressionnés. Et je pense que c'était ça, what it was all about, la conférence, c'était de trouver des solutions à des problèmes individuels. Ce n'était pas des problèmes géopolitiques, c'était des problèmes de la vie quotidienne. Et nous avions souvent avec la délégation soviétique, avec mon ami M. Doubinien, M. Kovalev, des réunions avec la délégation soviétique en disant « mais soyez un peu plus généreux dans ces petits domaines et nous serons satisfaits ». Mais il y avait aussi, je crois, une autre chose plus importante, c'était la négociation entre la délégation à Genève et les autorités dans les capitales. Ceci était vrai pour beaucoup de délégations. Et les autorités dans les capitales ne se rendaient pas toujours compte de l'atmosphère de Genève. Et peut-être la négociation la plus difficile n'était pas avec les autres pays autour de la table, mais avec ses propres gens à la maison. Le dernier point, et qui est un point un peu délicat, mais que je voudrais toucher quand même, c'est que nous avons eu un réveil américain et un réveil de toute la communauté européenne dans les questions de la troisième corbeille, sur les points justement de libre circulation, plus de liberté, etc. Mais tout ceci n'aurait pas été possible sans ce que j'appelle la quatrième corbeille. Tout ceci ne signifie absolument rien si cela était contenu dans un texte, un acte final. Il fallait que cet acte final, de temps en temps, puisse être vérifié quant à son application. Et c'est pour ça que notre délégation s'était surtout attachée à mettre en place un suivi. Ce n'était pas le permanent standing organ, mais c'était un suivi. Un follow-up, comme on l'appelait. Et c'est ce follow-up qui, à mon avis, était encore plus important que la troisième corbeille. Merci.
Merci beaucoup, M. l'ambassadeur Brunner. Et maintenant, M. l'ambassadeur Jacques Anne-Annie.